La Tribune, une présentation de la bijouterie Daniel Blett.
À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici Sylvain Rochon.
La Tribune vous est présentée aujourd'hui du Salon littéraire jeunesse de Saint-Ours. Je vais rencontrer pour vous les jeunes autrices et auteurs qui présentent leurs romans, leurs nouvelles, leurs BD. Vous allez voir, ils sont très, très, très inspirés. Et tout d'abord, de l'autre côté de la pause, des membres du comité organisateur, le président d'honneur du Salon, son porte-parole également. À tout de suite.
Je sais pas si vous avez déjà admiré les pièces de la collection Elle. Non? Voyons! La collection Elle, c'est une collection de bijoux élégants et de qualité supérieure. Entièrement composée de pièces en argent sterling, elle résiste toutes au ternissage. Et je vais vous dire ce qui rend les bijoux de la collection Elle si exceptionnel: le magnifique rubis qui se trouve à l'intérieur de chaque pièce. Regardez le mien!
La collection Elle, en exclusivité à la bijouterie Daniel Blett Diamantaire, 905 route Marie-Victorin.
Les bons coups, ça mérite d'être souligné. La Corporation de développement communautaire Pierre de Sorel met en lumière 19 bons coups soumis par ses membres. Jusqu'au 15 octobre, toute la population est appelée à découvrir et voter pour leur bon coup préféré en ligne ou en remplissant le coupon de vote disponible dans votre journal Les Deux Rives. Les coups de cœur du public seront annoncés le 22 octobre lors d'un point de presse. À vous de jouer! Votez pour votre bon coup préféré dès maintenant sur boncoup.ca.
La Tribune, une présentation de la bijouterie Daniel Blett.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Alors, Diane Lapointe est présidente du regroupement littéraire Jeunesse de Saint-Ours. C'est l'organisme qui porte le salon. Il a été fondé en 2008, est-ce que c'est ça?
Oui, exactement, en 2008. Oui. Ça fait donc notre 16e édition de concours. Là. Oui. En fait, je ne suis même pas certaine qu'en 2008, la principale, la fondatrice, là, Mme Bégin, je ne sais pas si elle visait vraiment un concours comme il existe présentement. Je pense que pendant deux ans, ça a dû être autre chose. Mais déjà, l'année d'après, je pense 2009, là, vraiment, il y a eu un concours tout petit.
Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup profité, grandi. Hein?
Ah oui, oui, oui. Quand je suis arrivée en 2017, il y avait 30, dans la trentaine de participants. Puis depuis 2018, tout de suite, on a passé à 60 et on s'est limité à 60 tant qu'on n'a pas eu l'espace pour faire un plus grand salon. Et depuis l'an passé, ben, on a un endroit immense.
Oui, le pavillon multifonctionnel vous a procuré cet espace. Oui. Tant et si bien que vous recevez cette année, quoi, 73 jeunes auteurs et autrices?
73 participants, 73 auteurs et autrices, effectivement.
Parlez-moi des étapes, parce que ce salon, c'est l'apothéose,
oui.
C'est le clou du concours.
Aujourd'hui, c'est une étape très agréable pour eux, mais avant le salon, c'est pas toujours agréable. En fait, il y a la période d'écriture, pour certains, c'est très agréable, pour d'autres, c'est plus laborieux. En fait, les jeunes peuvent toujours communiquer avec nous s'ils ont besoin d'aide. Ça, on a maintenant aussi des ateliers virtuels, étant donné qu'ils sont aux quatre coins du Québec, on peut pas faire d'ateliers en présentiel. Mais, par contre, la période la plus ardue pour eux, c'est la correction. Alors ça, c'est pas nécessairement agréable parce qu'il y a des réviseurs linguistiques qui prennent chaque texte et qui cherchent les erreurs, qui retournent les textes aux jeunes. Le jeune corrige ses erreurs, retourne au réviseur linguistique. C'est pas encore corrigé. Ça revient encore. Ça fait des allers-retours comme ça. C'est vraiment ardu. Là.
Est-ce que certains se découragent dans le processus?
Pas dans la correction, non. En fait, je pense que c'est jamais arrivé. Je veux dire, il y en a peut-être qui pestent à la maison. Mais ça, on le sait pas, on n'est pas là.
Est-ce qu'on fait de tous les styles littéraires, nouvelles, romans? Je sais qu'il y a bande dessinée.
Ben oui, mais en plus grande quantité, c'est vraiment les romans. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs sortes de romans, là, mais le roman fantastique a vraiment la cote chez les jeunes. C'est majoritairement des romans. Il y a des romans policiers aussi. Enfin, il y a toutes sortes de romans, mais c'est majoritairement des romans. Mais il y a aussi des bandes dessinées, des nouvelles et de la poésie, parce qu'on a un prix poésie aussi à compter de cette année.
Je n'ai pas encore fait le tour, là, mais je le ferai, nos auditeurs en seront témoins, mais l'an dernier, ce qui m'a frappé, c'est la présence d'animaux dans leurs nouvelles et leurs romans, et même leur poésie, là.
Oui, surtout, je pense à une en particulier qui fait de la bande dessinée, qui n'est pas là cette année, malheureusement, mais parce qu'elle est malade, mais elle a produit son album de bande dessinée encore avec des chats. Elle, c'est vraiment les chats, les chats, les chats. Et à chaque année, elle produit un album avec des choses. Souvent, c'est une suite même, là.
Ces jeunes auteurs et autrices, est-ce qu'ils viennent de tous les coins du Québec?
De plusieurs coins du Québec. Enfin, pas tous en même temps, mais plusieurs.
Oui.
Cette année, on a du lac Saint-Jean, on a de la Côte-Nord, on a du Bas-Saint-Laurent, on n'a pas de la Gaspésie, on n'a pas d'Abitibi, mais peut-être l'année prochaine, ça varie.
Vous connaissez l'adage « Nul n'est prophète dans son pays ». On me dit qu'il y a peu de participants locaux, curieusement, alors qu'ils auraient pu être les plus nombreux. C'est pas le cas, hein?
C'est malheureusement le cas. Je veux dire, il faudrait peut-être qu'on fasse un gros effort supplémentaire pour essayer de les rejoindre. On fait un effort, mais il est peut-être pas assez gros. C'est peut-être notre faute, je sais pas.
16e édition, est-ce qu'il y a une relève au plan de l'organisation? Est-ce que vous avez ça en tête, là, procurer à ce concours-là un avenir?
Oui, bien, en fait, quand je vois des jeunes auteurs, autrices qui ont maintenant plus de 17 ans et qui sont plus en mesure de participer, surtout ceux qui sont un peu dans la région, j'essaie vraiment de leur mettre le grappin dessus, là. Je veux dire, on en a un qui est à Montréal maintenant parce qu'il étudie à l'université. Je pense que c'est un doctorat qu'il est en train de faire, mais sinon, ça fait depuis... Il a arrêté de participer au concours et tout de suite, il a commencé à être lecteur, tout ça. Puis maintenant, il fait partie du conseil d'administration. Fait qu'on essaie vraiment de... Surtout les plus jeunes, parce que des plus âgés, on en a, dont la présidente.
Merci, Diane Lapointe, et compliments pour ce concours.
Ça me fait plaisir.
François Barcelot, président d'honneur du Salon.
Ben oui, je suis flatté.
Vous êtes honoré.
Oui.
Comment s'est arrivée cette présidence d'honneur?
Je n'en ai aucune idée. Probablement quelqu'un qui regardait un ordre alphabétique et B.A., c'est près du début.
Ah, vous avez été avantagé pour ça, vous pensez?
Oui.
Moi, je ne le crois pas. Je pense que c'est parce que vous êtes un auteur prolifique. Vous avez écrit pour les adultes, vous avez écrit aussi pour les enfants.
Oui.
Qu'est-ce qui est le plus exigeant? Qu'est-ce qui est le plus facile, oserais-je dire? Est-ce que c'est écrit pour les enfants ou les adultes?
Pour la jeunesse, c'est plus facile tout simplement parce que c'est plus court. Mais chaque phrase ou chaque page est aussi difficile dans un genre comme dans l'autre.
Vous avez ce matin donné une conférence échange et votre titre m'a étonné. Écrire un roman, c'est facile. C'était une boutade, ça.
Non, pas tout à fait. À moitié. Disons que c'est plus facile qu'écrire une symphonie. C'est plus facile que faire une sculpture de bronze. Et c'est malgré tout relativement facile. Évidemment, écrire un très bon roman, c'est difficile. Écrire un chef-d'œuvre, c'est difficile, sinon impossible. Alors, non, c'était pas une boutade.
Ouais.
Et je donnais surtout des conseils pour faciliter les choses. Par exemple, écrire au présent, c'est plus facile qu'écrire au passé simple. Des petits conseils du genre que les jeunes sont absolument libres de suivre ou pas.
La principale matière première, c'est l'imagination et l'outil, le français?
Il suffit d'un point de départ. Hein? Donc, parfois, je commence un roman avec juste la première phrase sans savoir comment ça va se terminer. Il est arrivé une couple de fois que j'ai pas pu terminer, donc j'ai abandonné le roman. Mais c'est tout. En fait, quand j'écris un roman, je veux surtout savoir comment ça va se terminer. Alors, il suffit d'avoir un certain nombre de pages, puis je finis par le savoir.
Alors, vous voulez connaître la fin avant de vous commettre sur l'introduction?
C'est ça, oui. Non, je déteste écrire un plan, par exemple. Je trouve ça très ennuyeux. Et puis, si je sais d'avance tout ce qui va se passer, pourquoi je l'écrirais le livre?
Et quel regard vous portez sur la jeunesse littéraire que vous croisez ici à Saint-Aubin depuis ce matin?
Ici, c'est vraiment excellent. Je suis épaté par ce que je lis. Là, j'ai essayé de lire au moins une page de chacun des 73 participants,
je crois. Oui.
Donc, et ce que je vois jusqu'ici est excellent et extrêmement diversifié. Ça va du polar à la poésie, à la fable, toutes sortes de choses vraiment épatantes.
Merci, M. Barcelot, puis bonne visite.
Merci.
Jonathan Bécotte, on se voit ici chaque année, porte-parole du Salon littéraire jeunesse, auteur jeunesse vous-même, enseignant.
Oui.
Qu'est-ce que vous constatez d'une édition à une autre?
Bien, je pense que le concours s'enrichit de plus en plus, se diversifie, surtout au niveau des différents styles qui sont présentés. On a eu la BD l'année passée qui a eu sa vitrine, et cette année, il y a un nouveau prix poésie. Moi, ça, c'est mon bébé en plus, la poésie. Alors là, je ne suis que plus heureux que de voir qu'il y a un engouement pour cette forme qui est parfois boudée.
Oui.
Une forme qui, parfois, est juste... mis à l'écart, réservé pour l'élite. Puis finalement, la poésie, il y a une liberté et c'est le jeu pur avec les mots. Donc, je suis très content que les jeunes redécouvrent cette forme-là et se l'approprient finalement.
Mais vous n'hésitez pas à parler d'engouement, vraiment engouement?
Ben oui, parce que il y a des prix qui sont décernés pour cette forme-là. Donc, nécessairement, il a fallu qu'on reçoive des manuscrits qui ont été soumis pour cette forme-là. Puis moi, je fais des ateliers parfois dans les écoles et au début, c'était mon cheval de bataille. Je disais, OK, un peu comme une espèce de personne qui veut les convaincre. La poésie, c'est cool, mais je me rends compte que finalement, mon travail est un petit peu fait d'avance parce qu'ils embarquent avec moi dans les ateliers puis ils se prêtent au jeu là, à cœur ouvert.
Bon, alors là, on parle de style littéraire, poésie. Parlons de thème. Quel thème inspire les jeunes? Est-ce qu'il y a des thèmes chouchous? Est-ce que vous avez constaté ça, là?
Bien, c'est sûr qu'il y a eu... forcément, la pandémie nous a marqué un peu. Donc, peut-être la maladie. Je me suis promené, j'ai vu des virus, tout ça. J'ai vu beaucoup de science-fiction aussi. Le cinéma peut-être a une influence. L'amour, la romance, ça va toujours rester. Dans l'adolescence aussi, les émotions...
Donc... Les personnages animaux.
Oui, absolument. Et moi, les animaux, en plus, j'aime ça. Alors, à Saint-Ours, en plus, hein, on est dans la ville parfaite pour ça. Oui, effectivement, différents thèmes et inspirations. Puis c'est beau que les jeunes partent justement d'une envie profonde et non pas « OK, tu vas écrire un livre sur tel sujet ». Ça semble vraiment être quelque chose qui les anime. Puis c'est ça qui est beau de voir dans leurs yeux là, aujourd'hui.
Alors, la littérature québécoise, elle a de l'avenir?
Absolument. De voir cet engouement-là, ça fait presque peur. On se dit, mon Dieu, toute cette relève va venir nous remplacer. Je viens à peine de m'établir et déjà là, il y en a 73 qui s'en viennent derrière
moi. On vous pousse dans le dos.
Exactement. Donc, absolument. Moi, je pense que ce sont à la fois des gens, des jeunes qui aiment écrire, mais en leur parlant un petit peu, on voit aussi que la lecture est très, très importante pour eux et un va jamais sans l'autre, là, selon moi. Là.
Merci, Jonathan.
Ça me fait plaisir.
Une autrice, Joanne Girard. Joanne, quelles sont tes impressions? Là? Je vois que tu passes de table en table, rencontrer ces jeunes autrices et auteurs.
Bien, moi, comme ancienne bénévole du regroupement littéraire jeunesse de Saint-Ours, oui. Je suis admirative, toujours admirative. Et je trouve que les jeunes ont eu la chance d'être bien accompagnés. Et ça, c'est beaucoup important parce qu'on a des bénévoles, ils ont des bénévoles parce que des bénévoles qui s'occupent autant de la correction que de les encourager, tout ça, donner des ateliers et tout. Alors, c'est merveilleux. Je pense, un événement qui devrait perdurer dans le temps. Et
ben,
qui
on
encourage...
en est à la 16e édition, c'est bien
ça.
Parti.
Et continue encore et encore. Alors, je fais appel à d'autres bénévoles que moi. Parce que moi, mon temps est comme terminé, je fais d'autres choses. Mais je vais peut-être revenir comme lectrice ou correctrice éventuellement.
Quel regard ça te permet de poser sur la jeunesse québécoise?
Ben moi, c'est un regard bienveillant, hein? Et encouragé aussi par justement cette belle jeunesse. Il y en a des jeunes qui lisent, puis il y en a des jeunes qui écrivent. Alors, vive la créativité, c'est tout ce que je peux dire. Je suis très encouragé.
Merci, Joanne. Des organismes communautaires du milieu sont ici, au Salon littéraire jeunesse du Saint-Ours. C'est le cas de la Maison de jeunes de Saint-Ours. Noémie est tout près de moi. Alors, Noémie, c'était une occasion de faire connaître vos services, de vanter vos activités à la jeunesse saint-oursoise.
Oui, en effet. Donc, la Maison des jeunes est réouverte maintenant depuis un an, car elle a été fermée pendant la COVID due au confinement et tout ça. Donc, on réouvre et on monte dans le fond ce que nous faisons, les sorties, les activités qu'on propose, puis les services qu'on propose à la jeunesse du village.
Il y a des activités culturelles à la Maison des jeunes de Saint-Ours?
Oui, ben on en a quelques-unes. On essaie de leur faire découvrir plusieurs choses, plusieurs types d'événements, plusieurs endroits. On leur fait découvrir des activités, de nouvelles choses. On les sensibilise aussi sur divers sujets comme la santé mentale, l'intimidation, la toxicomanie pour s'assurer de démystifier le tout et s'assurer qu'ils sont bien équipés pour le futur.
Vous êtes impressionnée de voir tous ces jeunes auteurs et autrices aujourd'hui?
Oui, vraiment, vraiment. Je m'avoue impressionnée, en effet. Et je m'avoue très contente aussi d'être témoin de tout cela. Je leur souhaite aussi le meilleur dans leur parcours d'écrivain. Et j'ai bien hâte d'aller voir ce qu'ils nous ont concocté tantôt.
Merci, Noémie. Bien,
merci à vous. Bonne journée.
Lucie Grenier, oui. Responsable de la bibliothèque de Saint-Ours. Oui.
Depuis 31 ans.
Depuis 31 ans. Vous devez trouver ça formidable, ce qui se passe ici aujourd'hui, bien, comme
sûr.
Chaque année.
C'est sûr. On va ensemble. On marche ensemble, les deux. Ils sont au deuxième étage. Nous, on est en bas, puis... Oui. Oh oui, c'est formidable.
Le regroupement, sa place d'affaires est au deuxième étage et vous
on
êtes au rez-de-chaussée.
On est dans les mots, tous les deux.
Ouais. À la Maison de la culture André Melançon,
oui.
Sur le chemin des Patriotes.
Oui, notre super bibliothèque 1882, la bâtisse.
Ouais. Ah, et à cette bibliothèque, on peut incidemment trouver toutes les œuvres littéraires des jeunes. Là.
Oui, ils peuvent les emprunter. Ils ont un code-barre avec le ISBN, puis le réseau Biblio les a informatisés, puis on peut les emprunter, oui.
Elle a du talent, la jeunesse québécoise?
Pas mal, oui. Ils sont vraiment bons. Et ça vient de partout. On m'a dit qu'il y a même quelqu'un de Sept-Îles. J'ai parlé à quelqu'un de toi, Saint-Sauveur. Les parents se déplacent. Chicoutimi. Ça a commencé tout petit à Saint-Ours. Après, c'est allé à Sorel, à la commission scolaire. Puis là, c'est rendu à Grandeur du Québec.
Merci, Mme Grenier.
Merci beaucoup.
De retour, après la pause.
La bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires.
Annonce majeure chez Pierre Lefebvre Toyota. Le concessionnaire opérera à partir d'un nouvel immeuble, boulevard Poliquin à Sorel-Tracy. Il sera construit à côté de son actuelle place d'affaires qui sera démolie. Érigé au coût de plus de 12 millions de dollars, le bâtiment comptera 2 étages. On y trouvera, outre la salle de montre pouvant accueillir 8 véhicules, une aire de réception pouvant en compter 4, un atelier avec 12 stations de travail, le tout climatisé et muni de l'équipement qui répond aux besoins actuels. L'espace pour l'entreposage des pneus sera amélioré. De multiples bornes électriques seront accessibles. L'immeuble aura une impressionnante superficie, 34 950 pieds carrés. La construction confiée à la firme ProServin devrait être terminée à la mi-2025.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Il y a une nouvelle offre délicieuse chez Tim. Les petits matins classiques sont 3 $ à l'achat d'un café chaud ou glacé de n'importe quel format. Et oui, seulement 3 $ pour un petit matin classique avec le café préféré des gens d'ici. Des conditions s'appliquent. Consultez l'appli pour les détails.
Au menu mardi dans Valérie l'après-midi, l'évaluation de dangerosité des chiens avec la vétérinaire Caroline Kelsdank, un résumé des jours de studio de Chloé Leclerc et on jase de la vie avec Mélanie Raté-Bisaillon. Valérie l'après-midi dès 15h30.
La Tribune, une présentation de la bijouterie Daniel Blett.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Cette émission vous parvient du Salon littéraire jeunesse de Saint-Ours. On va aller rencontrer de jeunes auteurs et autrices. Bonjour Éloi, parle-moi de ce que tu as écrit.
C'est un roman, oui, qui parle en fait de mon toutou chat qui est perdu à l'île du Prince-Édouard et qui essaye de revenir pour rejoindre son maître.
Qu'est-ce qui fait que l'action de ton roman se déroule à l'île du Prince-Édouard? Est-ce que tu as toi-même visité l'île à la faveur d'un voyage familial?
Oui, j'ai visité le Prince-Édouard et en ce moment-ci, dans 2 jours, je vais y retourner pour continuer mon voyage.
Tu as mis beaucoup de temps à écrire ce roman-là, Le long voyage de Potcha?
Bon, un mois, là.
C'est la première fois que tu fais ça?
Non, c'est ma 2e année ici. Et j'ai gagné un prix la dernière année avec l'Arbre des Piquoises. Et, ça ne me dérange pas de ne pas gagner une autre dernière fois, mais l'important, c'est d'écrire.
Et ta passion pour l'écriture, est-ce qu'elle est à ce point importante que tu aimerais en faire carrière, devenir un grand écrivain?
Ouais, ça serait vraiment bien.
Merci beaucoup, Éloi.
De rien.
Alexis Autier, qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui au Salon littéraire jeunesse de Saint-Ours?
Bien, aujourd'hui, je propose un roman dans le sens qui suit un psychologue, Maxime Nord, dans les années 2067. Où il va devoir apprendre à un robot penser comme un humain à être lui-même, à surpasser son programme et à être une personne en tant que telle.
Qu'est-ce qui t'a inspiré cette histoire très originale?
Quand je regardais des films de science-fiction sur les robots comme iRobot, je me demandais, ils pensent quoi à l'intérieur? C'est ma première fois que je publie moi-même mon roman et je suis très content et je pense vraiment pas arrêter ici.
Ah oui, alors là, il y a vraiment une passion qui se développe chez toi.
Oui, je vais pas m'arrêter ici. Même ce roman-là, je pense que je vais le réécrire, c'est sûr. À cause de... Même si c'est très bien pour un début...
Je veux le peaufiner encore.
Effectivement.
Merci beaucoup, Alexis, merci. Héloïse, parle-moi de Les yeux derrière toi.
En gros, c'est l'histoire d'un garçon qui a toujours fait l'école à la maison, puis pour la première fois de sa vie, il va entrer dans une école secondaire, en secondaire 3. Puis il s'est dit dans sa tête qu'il va juste s'occuper de ses devoirs, puis rien d'autre. Puis, sauf que lors d'un travail d'équipe, il va devoir être avec un gars puis une fille. Et il va tisser des liens pour amour et amitié.
Et cette histoire, elle est née comment dans ton esprit?
Je pense que c'est un peu à cause de la vie quotidienne, de beaucoup de choses qu'on entendait, notamment sur les réseaux sociaux.
C'est une première pour toi en termes d'écriture?
En fait, c'est la quatrième fois que je participe au concours.
Et est-ce que tu as, par le passé, remporté des prix?
L'année passée, j'ai gagné le prix du livre avec le moins de fautes d'orthographe. Et cette année, je sais pas, je verrai.
Bonne chance, Héloïse.
Merci.
Coralie Lévesque, Par-delà les apparences. Qu'est-ce que ça raconte, Par-delà les apparences?
C'est l'histoire de... Une histoire qui parle de transidentité et d'amitié. Donc, c'est l'histoire de Noémie et d'Alex. Donc, Alex est un garçon trans qui vient de découvrir qu'il est trans. Et c'est un peu l'histoire de leur amitié, là, de comment leur amitié progresse à travers ça, au-delà, par-delà des apparences, en fait. D'où le nom.
Tu souhaites dire quoi au lecteur à travers cette œuvre-là?
C'est un peu un livre sur l'acceptance, donc d'accepter les gens... Peu importe les apparences, dans le fond. Que les apparences, ça, c'est pas important, dans le fond. C'est vraiment ça, le message.
Est-ce que c'est le premier roman que tu signes, celui-là?
Non, j'ai écrit deux autres romans dans le cadre de ce concours. Donc, je pense que le premier s'appelait Alice et Amélie, le premier de la première année. Et la deuxième année, donc l'année dernière, j'ai participé... c'est ma troisième année. Et celui de l'année dernière s'appelait Turbulence.
Merci. Gabrielle, j'aimerais ça que tu me parles de ta fameuse île mystérieuse. Qu'est-ce que c'est l'histoire de l'île mystérieuse?
En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Olivier et qui habite dans une famille très pauvre. Et un jour, alors qu'il va pêcher, une grande vague fait chavirer son bateau et il se noie. Il se réveille ensuite sur une île qui a une maléfique, qui est maudite un peu. Où il y a un maléfice qui y habite. Et alors qu'il visite dans la forêt, il fait la rencontre d'une fille qui s'appelle Rosalie. Et c'est une fille assez solitaire qui habite dans une maison dans les arbres et qui va lui apprendre beaucoup de secrets sur l'île. Donc, tous les deux ensemble vont essayer de s'échapper et de détruire le maléfice qui y habite.
Comment ça t'est venu, cette histoire-là?
C'est un peu une histoire d'horreur, d'action, d'aventure. Je trouve qu'il y a beaucoup d'horreur, mais pour quelqu'un d'environ 12 ans, ça serait bien.
Oui. Et comment as-tu pensé à ça?
C'est souvent, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur et des films qui m'ont inspiré à ce livre-là. Donc, c'est ça, il y a beaucoup de livres que j'aime qui m'ont inspiré.
C'est le premier roman que tu écris ou tu en as écrit d'autres?
Oui, c'est ma première fois au concours de Saint-Ours. Et donc, c'est vraiment le fun et je pense que je vais revenir l'année prochaine.
Ah, bravo, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ahmed, parle-moi de Mission Impossible. Mais là, Mission Impossible, d'abord, le titre, c'est celui d'une série de films bien connue, là.
Exactement. Oui. C'est un livre, c'est toi le héros. C'est en fait un livre où le lecteur, il va se promener par rapport à ses décisions sur son livre. Et en fait, à la fin, il va aboutir ou à la fin qui est correcte. Ou bien une fin qui est incorrecte, et là, il va recommencer le livre et va essayer de trouver la fin qui est correcte.
Okay. C'est un concept original. Comment il t'est venu, ce concept-là? Tu l'as vu ailleurs?
Oui, exactement. Donc, je l'ai vu ailleurs. C'est mon type de livre favori à lire. Parce que c'est pas comme un livre traditionnel. Tu lis, puis hop, ça t'en as rien à faire. Tu peux le répéter encore. Donc, l'année dernière, j'en ai fait un autre. Et aujourd'hui, et cette année, j'ai décidé d'en faire un pour le concours.
C'est devenu une passion pour toi?
Exactement, oui. J'ai développé une technique pour réussir à, à le faire le plus efficace possible.
Là, tu l'as entre les mains. Tu en as l'air très fier. Je te vois regarder on appelle ça la jaquette du livre. Elle est très jolie, d'ailleurs.
Merci, oui. Donc, en fait, oui, je suis très fier du livre. Même si, vraiment, juste pour la mise en page, ce fut un vrai casse-tête. Un mois juste à refaire littéralement tout le livre parce que c'était trop grand. Mais à la fin, ça donne un résultat qui est vraiment apprécié.
Alors, c'est ça, c'est un long processus, hein?
Oui, exactement. C'est un long processus, mais ça vaut la peine à la fin.
Est-ce qu'il y a des moments où ça t'a découragé un peu, tu te lassais un peu ou jamais?
En fait, oui, bien sûr, ça arrive des moments où ça t'en a assez. Tu arrêtes pour une semaine, puis ça te revient à l'esprit et tu continues.
Merci, Ahmed.
De rien, c'est
bravo, plaisir. Bravo. Alors, Anne Fall, parle-moi de « En attendant de recommencer ». Recommencer quoi?
Dans le fond, En attendant de recommencer, c'est mon premier recueil de poésie. Oui, et c'est à propos du va-et-vient de la vie, mais surtout du deuil. Donc, un moment où on sent que tout va bien, puis après, juste un seul moment peut nous ramener en arrière. Puis, oui, c'est vraiment ce va-et-vient que j'ai écrit à cette période de ma vie. Et ouais, c'est ça.
La poésie, c'est un style littéraire très exigeant. C'est celui qui t'attire davantage?
Je trouve que oui, parce que oui, c'est exigeant, mais c'est extrêmement libre. Donc, il n'y a pas une certaine structure qu'il faut suivre généralement, puis c'est ça que j'aime dans la poésie, c'est libre. Oui.
Alors cette liberté, est-ce qu'elle fait, elle existe à ce point que tu commences sans très bien savoir comment tu vas terminer?
Oui, c'est exactement ça en fait, parce que je ne m'attendais pas à écrire un recueil de poésie. Au début, j'ai juste commencé à écrire quelques poèmes. Il n'y avait même pas de fil conducteur vraiment dans tous ces poèmes. Puis à la fin, je les ai mis toutes un à côté de l'autre. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de commun entre eux? Puis ça a fait un recueil, dans le fond. Ouais.
Il y a longtemps que tu écris?
Ça fait quelques années, mais j'ai toujours écrit, dans le fond. Mais je pensais vraiment que j'allais écrire ou publier un roman en premier. Donc c'est vraiment une surprise pour moi d'avoir mon recueil dans les mains comme ça. Mais oui, ça fait environ 3 ans que j'ai commencé à écrire de la poésie. Puis c'est le côté libre, rapide qui m'attire beaucoup.
La fierté se lit dans ton regard. Là.
Oui, je suis très fière, oui, c'est sûr. Ça fait longtemps que je travaille dessus, donc le voir en personne, c'est quelque chose.
Un compliment.
Merci
bravo,
beaucoup.
Bravo.
Merci, bonne journée.
Amal, parle-moi de ce dernier espoir, un dernier espoir. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est de la poésie?
Oui, alors c'est un roman et on est en 2063, donc dans le futur. Et il y a deux filles qui trouvent... une plante. Les plantes n'existent plus. Et là, le gouvernement veut prendre la plante parce qu'ils ne veulent plus que les plantes existent. Et là, eux, ils vont dans l'immeuble du gouvernement pour reprendre la plante. Et là, il y a plein d'aventures et de... C'est ça, il y a plein d'aventures là et des péripéties.
Comment t'es venue la trame de cette histoire? C'est très éclaté. C'est un univers assez fantastique. Comment ça t'est venu?
Ah ouais, c'est juste, j'ai commencé à écrire et là après, ça m'a pris beaucoup d'essais et erreurs. J'ai juste commencé à écrire une phrase, puis après, juste j'ai continué à recréer, jusqu'à temps que ça m'a donné ML, un dernier espoir.
Est-ce une première expérience pour toi?
Ouais, c'est la première fois que j'écris un roman.
Ah oui?
Ouais.
Et ce ne sera pas la dernière?
Et non, ça ne sera pas la dernière.
Bravo à toi.
Merci beaucoup.
Abra, les aventures de Léa, le jeu d'amitié. Parle-moi un peu.
Ça, c'est une fille qui a eu des difficultés à l'école. Elle, en fait, elle est forte dans les matières, mais elle a des difficultés dans se faire des amis. Elle est toujours toute seule. Puis cette année, elle voulait vraiment changer. Alors, ce qu'elle a fait, c'est que dans ce livre, il y a toutes les manières qu'elle a employées pour essayer d'améliorer ses relations. Et au milieu du livre, il y a un twist et je n'ai pas le révélé.
Comment ça t'est venu l'idée de ce roman?
Il y a la télé, il y a les différents livres que je lis et il y a juste mon imagination. Comme l'assemblage de tout ça, ça m'a donné comme l'idée de ce livre.
Bon, je ne veux pas être indiscret, mais est-ce qu'il y a un peu quelque chose d'autobiographique là-dedans? Est-ce que tu te racontes un peu à travers ça? Racontes-tu un ami, une amie?
Peut-être que j'ai un peu mes techniques pour se faire des amis. Peut-être que j'ai un peu rentré ça. Mais j'ai pas vraiment mis moi, comme je me suis pas mis dedans.
C'est une première expérience d'écriture pour toi?
Non, c'est une troisième. La troisième.
Et est-ce que c'est ta troisième fois ici au concours littéraire?
Non, c'est la première année que je découvre. Bien sûr que j'aimerais être dans la première place, mais c'est déjà comme tout le processus, j'ai déjà gagné.
Merci beaucoup. Merci à toi. Delphine.
Je suis originaire de Québec, puis j'ai écrit un recueil de 8 courtes nouvelles. Donc, c'est 8 petites histoires différentes.
Puis ils ont tout rapport avec le nombre 8. Donc c'est un peu le lien qui les relie entre eux.
Bon, et comment ça t'est venu, ça? Et le nombre 8, c'est ton chiffre fétiche?
Oui, c'est ça. Ben, c'est mon chiffre porte-bonheur depuis plusieurs années déjà. Donc, quand j'ai dû choisir un lien pour que mon histoire ait du sens, je me suis dit que ça pourrait être un bon thème.
Est-ce que c'est une première expérience d'écriture pour toi, Delphine?
Ben, j'ai écrit, ça fait plusieurs années que j'écris, donc j'ai écrit beaucoup de brouillons d'histoires, mais pas tout à fait finis. C'est vraiment la première fois que j'écris une histoire complète.
Ah, tu vas être très, très fière d'avoir enfin terminé quelque chose.
Oui, ben c'est un gros sentiment d'accomplissement. Là. Ça rend très fière.
C'est un long processus?
Absolument. Ça a pris plusieurs semaines à écrire, puis après ça, corriger, relire, tout ce processus-là, c'est très long, c'est sûr, mais ça vaut la peine.
Qu'est-ce que tu aimes de ce style littéraire-là, qu'est la nouvelle?
Ben, sincèrement, c'est plus court. Donc, pour ceux qui ont moins de concentration, ça peut être beaucoup plus intéressant à lire, vu que ça change régulièrement, ça apporte beaucoup de nouveautés. Puis, des fois, une histoire, ça peut être un peu long à la longue. Donc, changer de personnage, changer d'univers, ça peut faire du bien.
Merci beaucoup. Merci et bravo. Bravo à toi. Rachel, Montréal interdite, c'est un roman?
Oui, c'est un roman dystopique. Je viens de Montréal, donc je connais beaucoup les lieux. Et j'ai décidé de créer une histoire qui est vraiment réelle. Donc, c'est des vrais lieux qui sont à Montréal, qui sont sur mon passé ou sur ma vie en ce moment. Et c'est après une explosion nucléaire où la ville est vraiment divisée avec beaucoup d'injustices sociales. Et c'est un garçon qui essaye de ramener toutes ces injustices et de faire la paix à Montréal et de la ramener comme elle était avant.
Alors, d'où l'adjectif interdite. Interdite après cet accident-là.
Oui, exactement.
Qu'est-ce qui t'a inspiré l'histoire?
Je pense que c'est vraiment... à l'école, j'ai lu des romans dystopiques et j'ai adoré ce type de lecture. Mais aussi, j'aime beaucoup ma ville. Et genre, je connais beaucoup de lieux vu que j'habite à un endroit, mon école primaire à un autre endroit et mon école secondaire est aussi à l'autre bout de la ville. Donc, je connais vraiment et je pouvais le rendre plus réel. Et j'aime beaucoup lire des livres qui sont sur des endroits qui existent pour de vrai.
Est-ce que c'est ton premier roman achevé ou il y en a eu d'autres?
Non, j'en ai eu d'autres. Je ne les ai pas publiés, mais à chaque année du primaire et du secondaire, j'écrivais un livre pour mes enseignants, pour ma famille. Donc, ça en fait plusieurs.
Est-ce que l'écriture est devenue une passion telle que tu as l'intention de poursuivre encore longtemps?
Je pense que je vais continuer à écrire des livres. Je ne vais pas nécessairement faire ça plus tard, mais c'est sûr que toute ma vie, je vais continuer à en écrire parce que j'aime vraiment ça.
Merci, Rachel.
Merci.
Bonjour, Adèle. Comment vas-tu?
Bien.
Est-ce que tu veux me parler de ton livre, Le grand voyage de Pixie? D'abord, qui est-il, Pixie?
C'est un lutin.
Un lutin?
Un lutin qui vit en Chine. Et là, il sent seul. Puis là, il va à la bibliothèque, puis il trouve une carte avec... il y a l'île des lutins. Fait que là, il décide de se rendre sur l'île des lutins. Puis là, c'est tout pour s'y rendre. Fait qu'il fait tout le voyage.
Alors, pourquoi les lutins? Les lutins, c'est un objet de fascination pour toi? Te fascinent les lutins?
Ben, c'est parce qu'en fait, j'ai des petits jouets. Oui. Puis il y a un petit lutin. Puis j'ai décidé de le prendre comme personnage.
Okay. Est-ce que c'est ton premier roman, celui-là? Tu es toute jeune, j'imagine. Est-ce que tu as l'intention de persévérer, d'en écrire d'autres? As-tu aimé ça beaucoup?
Parce que oui.
Ben, bravo à toi.
Merci.
De retour, après la pause.
Express Pub.
Tu as des problèmes de drogue, d'alcool ou de jeux pathologiques? Ou peut-être tu connais quelqu'un qui en a? N'hésite pas à nous contacter 24 heures par jour, 7 jours sur 7, et ce, 365 jours par année. Une équipe est là pour t'orienter dans tes démarches. Maison La Margelle, 450-746-2788.
Distinguez-vous chaque jour de l'année avec les parures élégantes de la bijouterie Daniel Blatt. Bracelets, boucles d'oreilles, colliers de perles de culture ou encore une montre italienne Maserati raffinée et haut de gamme exclusive à la bijouterie Daniel Blatt. Vous comptez faire la grande demande? Offrez-lui la plus belle bague de fiançailles en diamant ou en or blanc, jaune ou deux tons. Nous saurons vous aider à faire le bon choix pour ravir les yeux et le cœur de l'être cher. Pour des bijoux et montres pour elle et lui, selon vos goûts et votre budget, bijouterie Daniel Blatt.
La Tribune. Une présentation de la bijouterie Daniel Blatt.
À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la tribune.
Cette émission vous parvient du Salon littéraire jeunesse de Saint-Ours. Je suis avec Camille Cardin, dont on me dit que c'est possiblement la seule participante à ce concours littéraire issu de la région. Sur tes traces, parle-moi de Sur tes traces. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un roman?
C'est un roman policier. Dans le fond, c'est une étudiante en criminologie qui, dans le cadre de son cours, va refaire une enquête qui a été classifiée comme résolue, mais que la fin ne fait pas vraiment de sens avec les événements qui se sont passés. Donc, elle va retourner voir les documents de la police, rencontrer les policiers et les proches de la personne pour pouvoir trouver d'autres pistes et vraiment découvrir ce qui s'est passé cette journée-là.
Bon, le policier, est-ce que tu y as déjà touché à ça, ce style de roman-là?
C'est ma première fois à écrire du policier. Pour les 7 participations précédentes, c'était du fantastique.
Et pourquoi tout à coup, justement, du policier?
C'est ma dernière année, donc je me suis dit que je voulais essayer quelque chose de nouveau. Puis j'ai écouté une série Esprit criminel il n'y a pas longtemps. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que je me suis dit, pourquoi pas essayer le genre policier pour ma dernière année?
C'est beaucoup, beaucoup de travail, écrire un roman, surtout quand on est méticuleuse, et je devine que tu l'es. Ça t'a mis combien de temps, ça?
Celui-là, je l'ai fait pendant ma pause entre mes 2 sessions de cégep. Donc, je l'ai fait très rapidement. J'ai travaillé, mettons, plus, je vous dirais, 3 semaines à quasiment des jours complets dessus.
Intensivement?
Oui, ça, c'est juste pour l'écriture. Après ça, je l'ai envoyé. J'ai fait la page couverture, la page de la 4e de couverture, puis la correction du livre. Donc, c'est un bon 3 semaines d'écriture, puis après ça, peut-être jusqu'au... Je vous dirais que j'ai lu la version finale cet été.
Pour en être à ta 7e participation au concours littéraire, 8e participation... Il faut avoir la passion d'écrire. Où ça va te mener, cette passion-là, pour l'écriture, tu penses? Je vois que ta maman sourit, là.
Dans le fond, je travaille dans une librairie. J'ai toujours aimé lire, écrire. Par contre, j'aimerais aller en médecine. Être libraire est dans mes projets si médecine ne fonctionne pas. Mais pour moi, l'écriture et la lecture, c'est vraiment des passe-temps. C'est ce que j'aime faire. C'est ce qui me permet de, genre, mettre ma plume puis de laisser ma trace dans un sens.
Alors, être une libraire, un plan B à la médecine, mais pourquoi pas une autrice qui se retrouve en librairie, dont les œuvres sont sur les tablettes?
Ça pourrait aussi, je pense, peut-être aussi être médecin en cardiologie, en chirurgie, mais faire des livres pour mon plaisir. Fait que peut-être qu'on pourrait les retrouver dans les librairies d'ici quelques années.
Merci, Camille.
C'est un plaisir. Bonne journée.
Bonjour, Damien. Veux-tu me parler de Luc avec un K? C'est le titre de ton ouvrage. C'est un roman?
Oui, c'est un roman. En gros, j'ai décidé d'écrire ce livre-là parce que je trouve que je m'en vais au cégep l'année prochaine. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de choix qui arrivent avec ça, beaucoup de réflexions. Puis c'est l'histoire d'un jeune journaliste. Ça fait une couple d'années qu'il est dans sa routine puis tout. Puis il aime beaucoup la musique, mais il a comme oublié ça au fil des années. Et qu'il décide de se lancer à 100% dans sa musique puis de rentrer dans un band puis tout. Puis ouais, je suis vraiment content de ma réalisation de mon œuvre. Hein. Merci.
Et qu'est-ce qui t'a mis sur la piste de cette histoire-là? Qu'est-ce qui t'en a donné l'idée?
C'est beaucoup que je trouve qu'au fil des années, tu sais, on s'en vient, tu sais, ça emmène beaucoup de stress quand même, le choix pour la vie adulte puis tout, puis ce qu'on veut faire dans la vie. C'est que j'ai décidé vraiment d'écrire ça pour me rappeler à moi-même aussi, à des proches et à des amis qu'il faut quand même se laisser du temps puis laisser des réflexions pour ce qu'on veut faire dans la vie puis se lancer dans nos passions aussi.
Ouais. C'est ton premier roman?
Oui, c'est mon premier roman, ouais.
Est-ce que ce sera le dernier roman?
Je pense pas. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, mais je pense que je vais en faire d'autres, mais ouais.
C'est beaucoup de travail.
Oui, c'est beaucoup de travail, effectivement. Là, ça m'a pris beaucoup de temps de réflexion juste avant de l'écrire, juste penser aux idées puisque la direction que je voulais prendre avec cet ouvrage-là, mais je suis bien content du résultat pour de vrai. Ouais.
Ben, compliment pour Luc avec un cas.
Merci beaucoup.
Maïli, une amitié surprenante. Parle-moi de cette amitié surprenante.
Dans le fond, c'est l'histoire d'une coquerelle.
Une coquerelle?
Une coquerelle. Okay. Et un jour, elle rencontre un éléphant qui s'appelle Maurice. Ils deviennent amis. Et Lily décide de lui montrer le village pour qu'il se fasse d'autres amis. Par contre, une autre coquerelle, qui s'appelle Fanny, celle-ci, décide de leur en empêcher, car elle croit que Lily l'a rencontrée pour une mauvaise cause.
Bon, c'est une amitié plutôt improbable, l'amitié entre une coquerelle et un éléphant. La coquerelle n'a pas par moment eu peur de se faire écraser par son copain?
Elle a failli se faire écraser, en fait.
Qu'est-ce qui t'a fait passer cette histoire-là? Comment c'est né dans ton esprit, dis-moi?
En fait...
T'as une fascination pour la coquerelle ou... ou l'éléphant?
Oui, en fait, j'ai pensé d'abord à l'éléphant parce que... Quand j'étais en première année, j'ai commencé avec une amie à faire des livres sur un mammouth. Et là, quand j'ai commencé à participer à ce concours, je me suis dit, un mammouth, ça ressemble à un éléphant. Alors, pourquoi pas faire une histoire sur un éléphant? Et après ça, j'ai inventé la coquerelle.
OK. Mais la coquerelle, t'aurais pu choisir un autre insecte. La coquerelle n'a pas très bonne réputation, pourtant. Elle est pour plusieurs répugnante. Mais toi, non.
Non, pour moi, non. Pour moi, c'est Lily la coquerelle et Fanny la coquerelle.
Merci beaucoup à toi. Alors, Eliane, parle-moi de la vie extraordinaire d'une fille ordinaire. D'abord, tu dois être fière de ton titre.
Oui, en fait, c'est un livre assez humoristique. C'est une fille, Daphné, de 11 ans, qui depuis toute petite, elle aimerait vraiment ça, avoir un animal de compagnie. Et puis, elle se décide enfin avec sa meilleure amie. Elle fait un plan pour convaincre son père d'enfin avoir un chat, vraiment son rêve. Puis, il y a plein de blagues dans ce roman-là. C'est chapitre 37 pages. Puis, donc, voilà.
Est-ce que c'est autobiographique? Est-ce que toi, tu fais ce rêve-là et tu veux convaincre ton père de t'acheter un chat?
C'est pas mal autobiographique, mais je l'ai déjà en ce moment, mon chat. Donc, ouais, mais... C'est pas mal un peu de mon histoire. Elle va à l'école comme tout le monde, mais c'est ça.
Est-ce que ça fait longtemps que tu écris?
J'ai toujours beaucoup aimé écrire. J'aime beaucoup lire, mais écrire, tu me dis écrire un texte, puis je vais t'écrire vraiment beaucoup de pages là, à l'école, ouais. Mais c'est ça, c'est mon premier roman aussi. Mais sûrement l'année prochaine... Je vais recommencer parce que j'aime tellement ça.
Ben, compliment pour la vie extraordinaire d'une fille ordinaire. Merci beaucoup, Eliane.
Merci.
Madame Marie-Ève est l'enseignante d'Eliane, oui, à laquelle on vient de parler.
Oui.
C'est vous qui l'avez incité à participer au concours?
Oui, c'est ça, exactement. Dès qu'Eliane est arrivée dans ma classe, j'ai vu qu'elle avait vraiment un beau talent. J'avais d'autres élèves aussi. Puis j'ai lancé cette idée-là. Et Eliane a vraiment accroché par rapport à cette idée-là. Donc, elle a fait ça de façon autonome et on se rencontrait une ou deux fois par mois où on dînait ensemble, on regardait son roman. Je suis un peu son réviseur, là. Donc, je l'ai accompagnée tout le long du projet. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, là. Je suis vraiment fière de voir la fin du projet, là.
Oui. Aviez-vous entendu parler avant cette année de ce concours littéraire?
Il y a 2 ans, j'en avais entendu parler. Donc, ça me trottait dans la tête depuis un petit bout d'accompagner des jeunes, là, dans ce projet-là, mais c'est la première fois là, qu'on le mène à terme. Là.
Et quel regard portez-vous justement sur ce rendez-vous là, à Saint-Ours?
Je trouve ça vraiment impressionnant. Je vois qu'il y a beaucoup de talent au Québec, là, des jeunes auteurs en devenir. C'est vraiment stimulant là, pour une enseignante. Là. Moi, je suis enseignante. Là, de voir ça, ça donne un coup de fraîcheur à l'écriture. Donc, je suis pas inquiète là, pour la littératie au Québec du futur.
Merci beaucoup. Delphine, parle-moi de lire et délire. Lire avec un Y, d'abord.
Oui, c'est ça. Oui. Donc, dans le fond, l'histoire, c'est des meurtres qui se passent dans la ville de Montréal. Et il y a les meurtres, les victimes de meurtres ont été mises dans des sortes de mises en scène un peu grotesques. Et au fur et à mesure que l'enquête avance, l'enquêtrice en chef réalise que ça a peut-être un lien avec la mythologie grecque.
Comment l'histoire t'est-elle venue?
J'aime beaucoup ça, moi, la mythologie puis toutes les histoires qui viennent avec. Et j'avais envie d'essayer un roman policier parce que j'étais là au concours l'année passée et je voulais faire quelque chose d'un peu plus différent.
Et l'année dernière, tu avais fait quoi?
J'avais fait un roman de fantasy.
D'accord.
J'ai aimé ça, mais c'était un petit peu plus difficile parce qu'il faut vraiment que l'histoire reste tienne. Sinon, les lecteurs, ils vont pas embarquer.
Tu as développé une véritable passion. Là. J'entends que tu étais là l'an dernier, que tu es là cette année. C'est dire que le goût s'accentue pour l'écriture?
J'ai toujours aimé ça, moi, quand j'étais plus jeune. Puis là, c'est sûr qu'en plus, vu que le concours, ça me donne l'occasion de vraiment participer puis que mon livre, il soit publié en tant que tel, c'est sûr que ça me donne envie de revenir à chaque année.
Très bien. Merci beaucoup, Delphine. Merci. Alors, Noémie, parle-moi de Décompte fatal. Décompte fatal, ça donne l'impression que la fin n'est pas heureuse.
Oui, donc ça, je ne vais pas vous révéler sur ça.
Non, mais... surtout pas.
Alors, en fait, c'est l'histoire d'une fille qu'elle, elle peut voir un peu quand est-ce que les gens vont mourir et entendre leurs dernières pensées. Donc, c'est pour ça que le titre est un peu sombre, parce qu'en fait...
C'est assez terrifiant.
Oui, le personnage principal est quand même sombre. Et elle a une vision assez négative sur la vie et tout ça. Et donc, c'est ça, elle apprend un jour qu'une de ses connaissances va mourir. Et là, elle essaye de la sauver en changeant son destin. Et c'est l'histoire pour voir si elle va réussir ou non.
Qu'est-ce qui t'a inspiré ce récit-là?
Vu qu'elle a une vision assez négative sur la vie, ça permet de faire plusieurs réflexions sur tout ça, le temps, exactement. Donc, c'est pour ça un peu que j'ai écrit sur ça.
C'est un premier roman pour toi?
Oui. La première fois.
Et tu as l'air très fière. Est-ce que je me trompe ou tu t'es toi-même impressionnée finalement?
Oui, j'étais fière. Puis c'est fun de voir ça en papier.
Oui.
Oui, c'est comme un rêve qui se réalise.
Ben, bravo, Noémie.
Merci.
Romy, parle-moi de Déraciner. Bon, Déraciner, c'est au féminin singulier. Alors, c'est une jeune femme qui est déracinée?
C'est une jeune fille. Je me suis inspirée de ma vie pour un peu créer l'univers de ce personnage-là, sans en modifiant beaucoup pour pas trop exposer ma vie personnelle au lecteur. Ouais. Puis mon frère qui m'a aidée à faire la page couverture, on a fait une collaboration à deux. Je viens de Québec, mais j'ai déménagé il y a 2-3 ans à Montréal. Ouais. Donc c'est quand même un gros changement de la campagne à la ville. Donc, j'ai un peu fait une histoire autour de ça.
Est-ce que c'est le premier projet d'écriture que tu achèves et qui est relié avec une magnifique jaquette comme ça, là?
Non, l'année passée, j'ai écrit un livre aussi, dans le cadre du concours.
Alors, tu as développé un goût particulier pour l'écriture.
Oui.
Qu'est-ce que ça te procure, l'écriture?
C'est comme tout mettre ses émotions sur papier. Ça détend et c'est vraiment... un loisir. Je ne pense pas à m'engager professionnellement dans l'écriture, mais juste en tant que loisir.
Et toi, tu as épaulé ta sœur en signant la page couverture avec ce magnifique dessin. Mm-hmm.
Ben, en fait, c'est elle qui m'avait donné des idées pour quoi faire. Et elle m'avait dit, fais-moi un camion de déménagement qui s'en va vers la ville. Donc moi, je me suis inspirée d'un camion de déménagement et en dessous des roues, j'ai fait comme des racines parce que déraciner, ça m'a fait penser à des racines. Donc c'est comme si on enlevait les racines. Donc les racines suivent le camion et ça va comme aller se planter à la ville et devenir un nouvel arbre. C'est un peu ça, ce que j'avais imaginé en tête.
Très bien! Bravo à tous les deux. Daphné Laurencel, tu as signé L'Hypnotise. L'Hypnotise.
Ouais.
Parle-moi de... C'est un roman?
Oui.
Parle-moi un peu.
En gros, c'est l'histoire de deux filles qui, dans leur quartier, il y a un jeu vidéo qui est devenu assez populaire et même qu'à un point que tout le monde est un peu obsédé par ça. Et là, les personnages, ils essayent de comprendre pourquoi tout le monde est si obsédé par ce jeu-là. Et donc là, ils commencent une enquête, mais avant qu'il y ait le temps de la terminer, tous les gens qui ont joué au jeu, ils disparaissent du quartier et là, ils comprennent pas qu'est-ce qui vient de se passer. Et là, ils essayent d'enquêter là-dessus pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé.
Comment elle t'est venue, cette histoire-là?
C'est assez drôle. C'est que ma classe de 6e année adorait un film en particulier. Et là, je trouvais ça tellement drôle parce que je trouvais qu'il était presque obsédé par ce film-là. Et donc là, j'ai décidé d'en écrire une histoire... mais qui parle d'un jeu vidéo à la place d'un film.
Alors, tu as contribué à leur obsession.
Un peu, oui.
Bon, est-ce que c'est ton premier roman?
Oui, mais ça m'a pris beaucoup de temps de faire, un an, et il fait 15 000 mots et 100 pages.
Ça te donne envie de continuer?
Oui, oui. Je suis en train de planifier un deuxième.
Et il portera sur quoi, le deuxième?
Je ne sais pas encore. Non.
Tu es en réflexion?
Oui.
Ça sera dans un autre univers complètement?
Oui, je pense que ça n'aura pas rapport tellement. Là. Ça ne sera pas une suite.
Merci, Daphné.
De rien.
Olivia, barrière cérébrale. Ça a l'air très, très savant, ça, barrière cérébrale. Alors, démystifie-moi ça un peu, là.
Donc, en fait, c'est un livre policier qui part sur une de mes plus grandes valeurs, le féministe. Donc, en fait, ça se passe dans les années 1800, où ce qu'une jeune fille, Anya, l'héroïne du livre, son père, c'est un grand inspecteur qui s'appelle Charles. Et il est sur une enquête en ce moment. puisque lui, il est très renommé, ben en fait, il veut pas que sa réputation tombe en chute à cause de sa fille qui est un peu plus garçonne. Donc, il va l'envoyer dans un pensionnat. Et elle va trouver dans le pensionnat, dans le bureau de sa directrice, quelques éléments qui ont rapport avec l'autre enquête.
Qu'une des valeurs qui te tiennent le plus à cœur est le féminisme.
En fait, c'est parce que souvent dans les vidéos maintenant, genre, mettons, sur Instagram, YouTube, bien, il y a encore genre des injustices avec des stéréotypes. Je vois beaucoup, puis ça fait vraiment de la peine, parce qu'on est quand même en 2024, on n'est plus avant, puis que, mettons, les femmes, c'est pas juste obligé d'être dans la cuisine, de faire le ménage, ou juste de s'occuper des enfants, et qu'ils savent pas conduire non plus.
Barrière cérébrale, c'est ton premier projet de roman abouti ou il y en a eu d'autres?
Non, c'est mon troisième. Donc, en fait, j'en ai fait deux. Donc, une série de deux qui s'appelait « M'entends-tu? ». Donc, c'est un livre vraiment sur un plus réaliste, avec thriller et un peu plus horreur en même temps.
Bien, merci à toi.
Merci. Merci.
Bonjour, Eliane. Très bien. Parle-moi donc d'À travers les étoiles.
À travers les étoiles, en fait, c'est un livre futuristique de science-fiction un peu, que je fais une histoire un peu classique de la gang de renégats qui se lie la main pour sauver le monde. En fait, ils partent sur une quête pour aller prendre un objet, mais ils trouvent que c'est pas aussi facile qu'ils pensaient. Il y a plein d'obstacles qui se mettent dans leur chemin. Ils essayent de pas trop s'entretuer ou de pas mourir, justement, en atteignant leur objectif au fil du livre.
Merci beaucoup, Eliane.
Merci à vous.
Ben voilà, mesdames, messieurs, nous vous avons présenté cette émission en différé du Salon littéraire jeunesse de Saint-Ours, 16e édition de cet extraordinaire rendez-vous. On se donne, nous, rendez-vous la semaine prochaine, mardi, entre midi 10 et 13 heures. Bonne semaine.